on se retrouve pour les sorties. Laurent, on va commencer par le film de Nicolas Bedos. Ça s'appelle La Belle Époque. C'est son deuxième film. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau, mélangeant artistes, artifices théâtraux et reconstitution historique. Cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix.
Oui, est-ce qu'on a vraiment envie de voir en ce moment ce cinéma de jeune vieux? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est poussé par la nostalgie permanente des années 70. Je trouve qu'elle sierait mieux à Papa Bedos, à Guy, qui est de ces années-là, qui pourrait, lui, cultiver cette nostalgie. Chez Nicolas Bedos, c'est un mélange très curieux, du coup, de cette effectivement nostalgie, et puis alors de clichés incroyables sur l'époque moderne. Il y a Daniel Auteuil qui insulte son GPS, on a vu ça dans 25 films déjà, c'est vraiment sidérant. Après, il y a des vulgarités, mais épaisses sur l'époque. Enfin, on se demande vraiment, dans cet entre-deux, où il est. Alors, c'est beauf, hein, c'est un concept qu'on pourrait presque inventé pour La Belle Époque de Bedos, nous montre leurs histoires d'amour, on s'en fout un petit peu, il faut bien dire, et Bedos invente en plus son double de cinéma joué par Guillaume Canet, et là aussi ça donne un film dans le film qui se voudrait amusant, distrayant, un peu décalé, puis c'est pas du tout le cas, ça ne marche pas. Alors on se dit quand même que pendant ce temps-là, le vieux Bellocchio, le vieux Ken Loach, le presque vieux Guédiguian tourne des films qui nous disent beaucoup plus de choses.
Adult in the Room. Tiens, ben encore un pas tout jeune, Costa Gavras. 2015, victoire de Syriza qui hérite d'une Grèce en faillite, une dette colossale et l'Europe qui lui impose des mesures d'austérité. Le film donc va suivre son ministre des Finances dans sa tentative de renégocier les échecs. C'est une adaptation des mémoires de l'ancien ministre donc Yanis Varoufakis. Conversation entre adultes dans les coulisses très secrètes de l'Europe. Le film très sommairement défini, ce pourrait être la crise grecque expliquée au nul, mais très clairement expliquée par Gavras, qui décrit sans la simplifier le dur apprentissage de la politique et des négociations redoutables avec les représentants de l'Europe. Beaucoup de dialogues et de déplacements, comme un peu à la Maison Blanche ou Social Network, tous les deux écrits par le grand Aaron Sorkin, mais moins subtil, moins nuancé chez Gavras. La force du film, bien sûr, ce sont ses acteurs. En tête, il y a Christos Loulis et Varoufakis, des acteurs de la nationalité du personnage qu'ils incarnent, le contraire d'une production internationale où tout le monde parle anglais. Là, c'est un très bon point.
Oui, c'est vrai, mais il est au fond dans la demi-mesure. C'est bizarre, Costa Gavras. On se demande où est le narratif, où est la fiction, comme il se dit si bien dans Z. Et le plus bel exemple, d'ailleurs, c'est que ce sont des personnages réels, mais on ne les appelle que par leur prénom. Alors, il faut savoir que derrière Christiane, il y a Lagarde, par exemple, ou que derrière Michel, il y a Sapin, ce qui est un peu agaçant, parce qu'on se dit, bon, pourquoi ne pas les nommer? Ben, parce que je crois qu'il ne choisit pas, effectivement, entre la fiction et le documentaire qu'il aurait pu faire. Et la seule fiction réelle qu'on voit dans le film est parfaitement ridicule. C'est un ballet, à la fin, où là, tout d'un coup, on est presque chez Jacques Demy, ce qui n'a strictement aucun intérêt.
C'est dommage,
et
c'est
pas de légitimité.
On oublie la scène.
Mais enfin, ouais. Moi, je trouve qu'entre l'électricité et l'essence, et ben l'hybride Costa ne choisit pas.
Bon, J'ai perdu mon corps. Premier long métrage de Jérémy Clapin d'animation, couvert de prix à la semaine de la critique à Annecy. Grand prix et prix du public à Paris. Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo. Bien décidé à retrouver son corps, s'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et de souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront d'une façon poétique et inattendue le fil de leur histoire. C'est adapté du roman Happy End de Guillaume Laurent. C'est un voyage.
Happy End. Jeu de mots.
Oui. C'est un voyage, ce film sensoriel, poétique, mélancolique, où se croisent fantastique et réalisme, et aborde des thèmes aussi grands que la solitude, la précarité, l'amour, ou le passage à l'âge adulte, de façon à la fois cruelle et candide. Mais c'est surtout un grand film de cinéma. Moi, je n'avais jamais vu autant de cinéma dans un film d'animation, dans ses cadrages subtils, ses mouvements de caméra audacieux, son montage harmonieux, et l'utilisation de la musique, une comédie romantique, un film d'action, un thriller, tout cela à la fois, et dont on sort, moi, je trouve, secoué de larmes et d'enthousiasme.
Non, je partage votre enthousiasme. Je pense qu'il faut quand même dire aux spectateurs et peut-être aussi aux plus jeunes qui sont habitués des films d'animation, il faut quand même un petit peu s'accrocher parce qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent en permanence. Et autant, évidemment, en écrit, Guillaume Laurent, c'était facilement lisible, autant là, sur grand écran, il faut un tout petit peu s'accrocher pour rentrer dans le film. Une fois qu'on y rentre, c'est un merveilleux spectacle.
Et puis, nous danserons. C'est un premier film de Levan Aki, Martin, qui est suédois d'origine géorgienne, là où se déroule justement ce film, l'histoire du jeune Merab qui s'entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l'ensemble national géorgien avec sa partenaire de danse Mary. Ces danses traditionnelles qui perdurent dans une société à l'idéal hyper viril. Et Merab va tomber amoureux d'un jeune nouveau, son rival et son plus grand désir. En 2013, le réalisateur a assisté à une gay pride en Géorgie dont les participants se sont fait attaquer par des milliers de personnes de l'église orthodoxe. Histoire d'un amour impossible, donc, entre deux garçons qui doivent se cacher de leurs amis, de leur famille, de tout le monde. Très subtilement décrite, cette montée du désir, cet événement de l'adolescence qui devrait être une joie et qui devient un calvaire. Ajoutez à cela la discipline de la danse sur les corps contraint, assez remarquablement filmé et des jeunes acteurs très convaincants. Ce qui pourrait se résumer à un film militant est en fait un vrai film de cinéma et toute l'émotion qui va avec.
Pas vu, mais vous donnez très envie. Oui. Mais alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait deux programmes en matière de dessin animé qui sont sortis de Paul Grimaud. 10 courts-métrages restaurés, absolument formidables. Décidément, l'animation cette semaine, ça va bien.
On va presque conclure avec un drôle de doc qui s'appelle Vitis Prohibita de Stéphane Ballet. C'est le vin prohibé, Laurent?
Eh ben oui, moi, dans ma jeunesse, figurez-vous, dans les Cévennes, je buvais du Clinton. Non, pas du Clinton, on devrait presque dire du Clinton, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce sont des cépages qui venaient d'Amérique et qui étaient interdits en France parce que on leur trouvait des vertus absolument trop fort pour le cerveau humain. Ces cépages sont à nouveau cultivés en France. Ils sont encore interdits à la commercialisation, mais c'est tout à fait passionnant et amusant d'entendre des viticulteurs parler de ces cépages encore interdits. Vive le Clinton.
Un inédit de Bolognini, Black Journal.
Incroyable ce film, effectivement, qu'on n'avait jamais vu. Alors le titre français, enfin en français, en anglais, est abominable, alors que le titre italien, c'est Grande Bolito, c'est-à-dire la grande lessive. C'est une farce d'une noirceur et d'une horreur sidérante. C'est tout à fait proche de l'univers de Polanski, et c'est avec Sibloupé, Chelly Winters et Max von Sydow en femme.
Il y a... Non !
Mais si, absolument, faut voir
le
ça.
Le joueur d'échecs de Bergman, d'accord.
Faut voir ça. Et il ressort aussi la Viaccia formidable de Bolognini, et on a quatre films de Bolognini en DVD aussi dans un beau coffret qui sort. Vraiment, c'est une belle actualité, Bolognini.
Des festivals, Laurent.
Oui, et des festivals, bien entendu. Je dis en aparté quand même un petit peu qu'il y a 365 festivals de cinéma en France chaque année. C'est dire si ici, on ne peut pas parler de tous. Alors, on s'est concentré sur la Haute-Garonne cette fois. Il y en a un à Muret, le Festival du cinéma 2019 du 11 au 17 novembre, avec des films, des tas de films, des avant-premières dédiées au cinéma d'auteur, au cinéma d'art et d'essai. Et puis j'ai trouvé aussi qu'à Toulouse, on parlait d'histoire de cinéma, histoire au pluriel, du 8 au 16 novembre. Il y a des gens comme Aurélien Bory, Serge Bronberg, Alain Damasio, avec Christine Masson. Il y a des gens comme ça, mais qui vont nous présenter des films, nous en parler, nous dire tout le bien qu'ils en pensent, et puis surtout, effectivement, faire de beaux exercices de cinéphilie, et ça, c'est toujours réjouissant.
Alors, un cadeau par invité.
Oui, Marcus Roteux, on va vous offrir un cadeau d'un livre de quelqu'un qu'on aime bien, qui s'appelle Pierre Gras, Goodbye Fassbinder, le cinéma allemand depuis la réunification. C'est aux belles éditions Jacqueline Chambon, et c'est une somme extraordinaire sur ce cinéma dont on vient de beaucoup de parler, et qui est très très bien écrite. Ça se lit très agréablement, très facilement,
très,
alors que c'est évidemment érudit. Ouais. Et puis pour vous, Pierre Gras, je pense que vous le connaissez, mais on avait envie aussi de le dire à nos auditeurs, il y a une ressortie, celle de Siegfried Krakauer, de Caligari à Hitler, une histoire psychologique du cinéma allemand. C'est du lourd, c'est du psychanalytique, c'est du marxiste, mais ça marche très très bien sur le beau cinéma allemand des belles années.
Merci infiniment à tous les deux, merci Marcus Rotte, merci Pierre Gras.